Oui, pour Engie, vert, ça peut rimer avec moins cher. N'est-ce pas, Claire? Appelez le 3101, service et appel gratuit. Voir conditions de l'offre et du comparatif de prix sur particulier.engie.fr. J'agis avec Engie. L'énergie est notre avenir. Économisons-la.
Comptez à une sombre affaire de trous, une histoire à creuser.
Le cours de l'histoire, du lundi au vendredi à 9h sur France Culture, franceculture.fr et l'appli Radio France.
France Culture?
Des histoires merveilleuses.
D'hier et d'aujourd'hui.
Pour grands et petits.
Une collection France Culture.
Chaque vacances, France Culture vous propose un texte du patrimoine littéraire à podcaster en famille.
L'île mystérieuse.
En voiture ou au coin du feu.
Gulliver.
Accompagner une sieste dans le hamac.
Moby Dick.
Ou à l'heure du coucher.
Des histoires merveilleuses d'hier et d'aujourd'hui pour grands et petits.
À écouter sur franceculture.fr et l'appli Radio France.
France Culture, tout de suite, une histoire particulière.
Vous savez ce qu'on retient quand il y a un match France-Algérie, c'est pas le mot amical. La charge est tellement lourde, la charge historique, émotionnelle, sociale. Un match comme ça ne peut pas être un match ordinaire. Forcément, il a une résonance. Il déclenche dans l'imaginaire des choses qui ne se limitent pas au football.
Ce match a été victime de sa propre densité passionnelle. C'est une jolie citation de l'ambassadeur d'Algérie, Mohamed Bouali, à Libel. D'ailleurs, on est resté très longtemps à l'arrière de la loge présidentielle quand le match était fini, parce qu'on était, bien sûr, extrêmement marqués. Hein. On est sorti peut-être un peu euphorique de 98, sans mesurer que les plaies qui restaient, les souffrances qui restaient entre la France et l'Algérie ne pouvaient pas simplement s'effacer par une rencontre de foot.
France-Algérie, le match impossible. Un documentaire de Stéphane Bonnefoy et Thomas Duterre. Premier épisode, les Bleus de la réconciliation.
Pour nous, ce match, c'est quelque chose d'historique. C'est un match d'amitié, de fête et de retrouvailles.
6 octobre 2001.
Depuis l'indépendance jusqu'à ce jour, c'est la première fois qu'on voit le drapeau français et le drapeau algérien flotter dans le même stade. Et ça, c'est un événement qu'on ne peut pas oublier, surtout nous les anciens. Que vraiment, dès que j'en parle, je suis très, très ému pour parler, parce qu'il y a longtemps qu'on attendait ça. Pour nous, cet événement nous marque beaucoup. Et surtout, se rapprocher les deux peuples, c'est-à-dire créer un lien de rapprochement entre deux peuples. N'importe qui gagne, pour nous, nous avons gagné.
On est arrivé le dimanche à Paris, à Levallois, je crois. On avait eu un match amical contre Créteil où on avait pu sentir un peu l'atmosphère qui allait arriver le jour J, le jour du match contre la France, où bon nombre de spectateurs de l'équipe d'Algérie étaient présents, se faisaient entendre.
Omar Belbé, ancien joueur de l'équipe nationale algérienne de football.
Ils étaient là à nous encourager et tout, et on commençait déjà à sentir un peu à travers les mots qu'ils pouvaient nous envoyer que c'était hyper important pour eux qu'on fasse bonne figure, qu'on représente bien l'Algérie, même si c'était pour la majorité des jeunes issus de l'immigration mais nés en France, quoi. Tout le début de semaine s'est bien passé et le lendemain du match amical contre Créteil, on a commencé à avoir au niveau des questions, que ce soit les journalistes au niveau de la télé, de la radio, de la presse écrite, mais que les questions elles étaient plus portées sur le sportif, mais sur le côté politico-historique de l'histoire en fait.
C'est un match historique qui a lieu dans un contexte très particulier, quelques semaines après de graves émeutes en Kabylie, quelques semaines après les fameux attentats du World Trade Center, un moment où la menace terroriste reprend de plus belle, le plan Vigipirate est activé.
Stanislas Frankiel, historien.
Sur le plan sportif, c'est une rencontre entre deux nations au niveau complètement déséquilibré. L'une est championne du monde, championne d'Europe, l'autre est classée au 75e rang mondial. Malgré tout, nous connaissons l'épaisseur des liens qui unissent aussi ces deux pays, hein, aussi sur le plan sportif. Ce match devait être le match de la réconciliation.
Déjà, je trouvais que c'était une chance d'ailleurs qu'il y ait ce match-là.
Lilian Thuram, ancien joueur de l'équipe de France de football.
Ça allait permettre aux gens de changer leur façon de penser. Parce qu'effectivement, on voyait bien, après les attentats du 11 septembre, il y avait cette idée qu'en fait, qu'il fallait se méfier des musulmans. Et donc, moi, je me disais que ce match-là, vu l'histoire qu'il y a entre la France et l'Algérie, arrivait à un très très bon moment. Moi, j'étais extrêmement heureux qu'il y ait ce match-là. Et donc, je comprends sincèrement l'importance du match pour peut-être changer l'imaginaire collectif. Et aussi, je connais l'histoire tragique entre la France et l'Algérie. Donc, je sais que c'est une colonisation qui a duré plus de 100 ans. Je connais la violence de l'histoire. Je connais aussi la problématique des personnes françaises d'origine algérienne. J'ai ça aussi qui ne sont pas vues comme les autres. Et donc, je me disais que vraiment, c'était un super match, que ça allait être un super moment et qu'on allait pouvoir devenir plus intelligents ensemble, quoi.
Ce match historique, cette première rencontre donc entre les footballeurs français et algériens, un dispositif de sécurité exceptionnel sera mis en place ce soir autour du Stade de France. Ce match était déjà classé à risque bien avant les attentats aux États-Unis. Depuis donc, le plan Vigipirate, vous le savez, a été renforcé. Les 80 000 spectateurs seront systématiquement fouillés. Toute l'enceinte sera sous très haute surveillance. Reportage Didier Balèze, Olivier Sainte-Marie.
Dès le début de l'après-midi, plus de 150 stadiers vont inspecter tous les recoins du Stade de France avec la plus grande minutie pour assurer une sécurité maximale aux spectateurs. Mais pour chaque rencontre placée sous haute surveillance, l'essentiel du dispositif se situera à l'extérieur.
D'importants renforts de police seront sur place. Par ailleurs, sans nécessairement de lien de cause à effet, 4 personnes appartenant à la mouvance islamiste ont été interpellées hier et placées en garde à vue.
Je crois qu'avec de l'époque, on attendait surtout un rendez-vous sportif.
Mouloud Haddad, sociologue.
Les commentaires politiques et des journalistes, hein, évidemment, ont beaucoup fait pour faire monter un peu la pression. C'est un contexte, hein, l'Algérie sortait à peine de ce que les Algériens appellent la décennie noire, c'est-à-dire une longue et triste page d'une guerre civile qui a fait donc des dizaines de milliers de morts. Il y a quelques mois, avant ce match-là, des événements, des troubles, des manifestations dans la région de Kabylie. Donc il y avait tout ça qui était un peu encore présent dans les esprits. Mais je me souviens très très bien, quand on est en muni de nos tickets, quand on faisait la queue pour accéder à nos places dans les gradins, supporters algériens, supporters français, c'était très très bonne ambiance. Très très bonne ambiance, vraiment, si on veut utiliser les grands mots, fraternels, enfin on était mélangés dans les files d'attente, les échanges, les discussions, puis ensuite dans les gradins, les chants en commun, on attendait, bon, il y avait un trait d'union qui s'appelait Zinedine Zidane, hein, faut pas l'oublier non plus. Vraiment une ambiance bon enfant, même si il y avait quelques petits signes avant-coureurs, par exemple quelques envahissements de terrain avant le coup d'envoi. Sans agressivité, en tout cas, je ne l'ai pas du tout ressenti, moi, qui étais derrière les buts du gardien algérien, en première mi-temps. Pas du tout ressenti de tension négative.
Je suis un enfant de l'Algérie. Je suis né à Annaba, anciennement Beaune.
Gilles Smadja, ancien chef de cabinet de Marie-Georges Buffet, ministre de la Jeunesse et des Sports.
Au début de l'année 2000, c'était en février, il se passe des choses en Algérie. On est à la fin de ce qu'on a appelé la décennie noire. Une guerre civile, pour dire les choses plus clairement. Et le président Bouteflika a été élu quelques mois auparavant. Et il fait une série de discours, d'annonces où il essaye de faire passer un vent de renouveau sur l'Algérie, de démocratie, de liberté. Il annonce la tournée d'Enrico Macias, plus de 30 ans après avoir quitté ce pays, qui reviendrait chanter. Donc il se passe des choses en Algérie à ce moment-là. Et au cabinet de Marie-Georges Buffet, avec mon ami Serge Maisonnès, qui est le conseiller football de la ministre, nous essayons de nous demander comment on peut aider l'Algérie, comment on peut l'aider à être plus forte encore dans cette volonté de changement. Et puis on sait que l'Algérie est un pays fou de football, c'est un pays qui vit le football de manière incroyable. Et c'est un pays qui, 2 ans avant, en 98, a vibré pour l'équipe de France et sorti dans les rues d'Alger le soir de la victoire en Coupe du Monde. Et donc, on se dit qu'il y a quelque chose à faire. Et donc, on savait qu'il y avait un terreau favorable à construire quelque chose autour du foot entre la France et l'Algérie. Le sport peut aider, le foot peut aider. Alors, essayons d'imaginer un match là-bas, entre l'Algérie et la France. Et c'est comme ça qu'on réfléchit tous les deux. Et on se dit, tiens, il faut qu'on en parle à la ministre, il faut qu'on en parle à la fédération. On connaissait très bien le directeur général de la fédération, qui s'appelait Gérard Reynaud. On connaissait très bien Claude Simonnet, le président de la fédération à ce moment-là. Et donc, on va les voir pour leur en parler.
Et puis, on en a discuté, pas simplement au niveau du ministère des Sports, bien évidemment, parce que c'est une question... extrêmement politique, donc on a abordé cette question aussi avec le Premier ministre.
Marie-Georges Buffet, ministre de la Jeunesse et des Sports en 2001.
L'idée était d'abord de faire ce match en Algérie. Et puis bon, l'Algérie sortait d'une période extrêmement dure, violente, et la crainte du gouvernement algérien était qu'il y ait des tentatives terroristes, etc. Et donc on a reculé sur la tenue du match en Algérie. Et on a abouti, en discutant avec le gouvernement algérien et entre les deux fédés, au fait qu'il fallait qu'ils se tiennent en France, et donc en France, au Stade de France. Dans la préparation de ce match, il y avait plutôt une envie, quasiment une forme d'enthousiasme. C'est, je dirais, à l'approche réellement de la tenue de ce match que les sources d'inquiétude sont venues, alimentées par les notes des renseignements généraux. Mais il y avait plutôt, dans la préparation de ce match, l'idée que ça y est, on allait enfin faire cette rencontre entre ces deux pays, à travers le sport le plus populaire qui soit, le football, dont c'était plutôt une démarche positive qui nous animait.
À Saint-Denis, vous savez, c'est une ville très populaire, avec une grande diversité de population, avec une population d'origine algérienne importante.
Gilles Smadja.
Et on voyait bien qu'il y avait d'abord d'énormes demandes, tout le monde voulait aller au stade, et puis on voyait bien que les gens qui voulaient aller au stade, c'était pour soutenir l'Algérie, et c'était pour que l'Algérie batte la France, et c'était pour affirmer ce soutien de manière très forte, et notamment chez les jeunes. Et donc on sentait bien qu'il y avait une certaine tension autour de ce match, qui n'a fait que grandir, et plus on approchait du match, plus cette tension était assez nette. J'avais eu un échange avec le commissaire de police de Saint-Denis quelques jours avant le match, qui me confirmait ça, qui me disait que lui aussi, il ne sentait pas bien les choses et qu'il redoutait un certain nombre de situations compliquées à gérer aux abords du stade. On espérait que ça puisse bien se passer, mais... hélas, nos appréhensions n'ont été que confirmées.
Jean-François, la pluie a cessé et le stade se remplit.
Oui, écoutez, on va dire que de Dunkerque à Calmann-Racette, ils sont tous là, ou plutôt ils sont en train d'arriver au compte-gouttes. Fouille oblige, près de 50 000 Algériens de France, d'Algérie, car même le tout Alger a fait le déplacement sur les lignes aériennes nationales, Khalifa Airways ou encore Air Algérie. Dans l'immédiat, à l'intérieur du stade, on va dire que l'ambiance est plutôt bon enfant, beaucoup de drapeaux couleur blanche et vert, des spectateurs visiblement venus ici pour le plaisir et seulement pour le plaisir. Cela étant, on notera tout de même que si à l'extérieur le dispositif policier est impressionnant, à l'intérieur il y a ce soir un stadier pour 60 spectateurs ou presque effectifs, donc là aussi revu à la hausse. Seule petite inquiétude, Philippe, les slogans peut-être hostiles tout à l'heure au pouvoir algérien actuellement en place. Alors sachez que pour contrecarrer ces trublions, et si l'on en croit nos confrères algériens du journal Le Matin, quelques centaines de jeunes Algériens auraient été envoyés ici à Paris dans les gradins du Stade de France pour scander tout simplement des slogans cette fois à la gloire du président Bouteflika. Enfin, ce ne sont bien sûr, vous en doutez, que des suppositions, des allégations de journalistes, donc plutôt difficiles à vérifier.
On a compris rapidement en arrivant au Stade de France avec le bus qu'on avait un public acquis à notre cause, quoi. Parce qu'il y avait que des drapeaux algériens, il y avait très peu de drapeaux français. Encore une fois, on arrivait 3 heures avant le match. Hein.
Omar Belbé.
Surpris de la préparation de match, du sérieux de l'équipe. On était tous super concentrés, super motivés. Voilà, au moment où on est sorti pour aller s'échauffer, on a croisé quelques joueurs de l'équipe de France. On a senti que le match, il était là, il était maintenant, c'était l'instant T, quoi, en fait. On avait l'impression de jouer même à domicile, à Alger, en fait. Parce que quand on entend, on voit les drapeaux, on voit des personnes pleurer en chantant l'hymne algérien, ça fait vraiment bizarre, quoi. On sentait un petit peu ce qui allait arriver, malheureusement, dans les dizaines de minutes un peu plus tard.
On se disait entre nous, ça va pas bien se passer, parce que on savait très bien qu'il y aurait des milliers de jeunes
Gilles Smadja
français d'origine algérienne ou franco-algérien, appelons-les comme on veut, qui auraient envie d'aller voir ce match pour soutenir l'Algérie. Et du coup, compte tenu de l'écart de niveau entre les deux équipes qui était énorme à ce moment-là, les choses ne pouvaient que mal se passer. La France à ce moment-là, elle a une équipe extraterrestre, après avoir gagné la Coupe du Monde, et après l'Euro, bon, évidemment, là, c'est une équipe qui marche sur l'eau, et on savait très bien qu'avec l'Algérie, au niveau sportif, il n'y avait pas photo, comme on dit. Et donc, ce match-là, déjà, on sentait, sur le plan sportif, ça allait exacerber encore plus les tensions qu'il pouvait générer. Malheureusement, tout ce qui s'est passé ensuite n'a fait que confirmer cette appréhension.
Dans les tribunes, c'était clair. On ressentait vraiment un match à domicile pour l'équipe d'Algérie. Le stade était évidemment coloré des deux drapeaux, hein, et des deux franges de supporters, mais quand même, on avait une ambiance très, très, très marquée en faveur de l'équipe d'Algérie, et pour un soir, on était un petit peu en Algérie.
Mouloud Haddad.
La France, c'est une immense équipe. Des joueurs exceptionnels, Zidane en figure de proue, Djorkaeff, les Thuram, et j'en passe, Barthez bien sûr dans les buts, donc souvent on est pour le petit poussé, hein. Et quand le petit poussé est quand même un peu de... c'est un peu vous, j'attendais voilà, une belle résistance, que l'Algérie fasse bonne figure, qu'on voit un beau spectacle, qu'elle ne soit pas une victime expiatoire, j'étais non à fond derrière l'équipe d'Algérie, ouais.
Les gens que je rencontre un petit peu dans la rue, qui soit justement d'origine algérienne.
Zinedine Zidane.
Me disent d'aller doucement samedi.
Pour aller... 6 octobre 2001.
Et de toute façon, comme je l'ai dit, même si ça ne plaira pas à Roger Lemaire, s'il y a bien un match, un jour qu'on doit faire un match nul, je crois que si j'ai à choisir, ça sera bien celui-là.
Beaucoup de gens lui sont tombés dessus. Autant à gauche qu'à droite, certains éditorialistes lui ont imposé quelque part de choisir son camp, de l'ont sommé de se positionner.
Stanislas Franquiel.
C'est très compliqué pour Zinedine Zidane, parce qu'il est à la fois fier de porter ce maillot bleu, évidemment il est champion du monde, champion d'Europe, mais il n'a jamais oublié ses racines. Ça révèle la difficulté pour les immigrés algériens, même les sportifs de haut niveau, même les plus rémunérés, même les plus tarifiés, de trouver leur place dans une société qui leur impose en permanence de choisir.
Zidane joue ce match-là à Saint-Denis. Le Stade de France est à quelques dizaines de mètres d'une ancienne usine de la métallurgie dans laquelle son père avait travaillé quand il est arrivé d'Algérie.
Gilles Smadja.
Comment voulez-vous qu'il lui aussi n'ait pas cette charge émotionnelle par rapport à tout ça? Donc évidemment qu'il pense à ça, évidemment qu'il pense au pays d'origine de son père, il pense à tout ça. Et donc évidemment c'est humain, il dit « bah oui, j'aimerais qu'on fasse match nul, j'aurais une pensée pour l'Algérie. Il dit ça, ben oui, mais ça se comprend. Évidemment que ça se comprend. Zidane, il n'est pas dirigeant politique, quoi. C'est pas un sociologue. Zidane, c'est un footballeur qui a des origines algériennes, qui a grandi à Marseille et qui vient jouer juste à côté de l'usine où son père est venu travailler quand il est arrivé de Kabylie. Bah, tout ça, ça remue tout ça, voilà. Et il parle comme ça.
On voit aussi que toute phase, que toute immigration a créé son lot de difficultés, son lot de suspicions. Là, depuis les années 80, sont particulièrement visibles les Algériens, depuis le regroupement familial en fait. Mais ça a été le lot des Polonais dans les années 30, des Italiens dans les années 40-50, où on leur a assommé de choisir, on leur a demandé de choisir. À l'époque de Raymond Kopa, Ballon d'Or, ou de Michel Platini, également Ballon d'Or, c'était une autre époque, c'était une époque où déjà il y avait la religion catholique en fait, qui rassurait en fait, l'opinion française, hein, de ces Italiens, de ces Polonais. On imaginait un grand creuset français où tout le monde allait pouvoir s'intégrer au fur et à mesure des générations. Alors là, avec l'islam, se pose une autre question, celle de l'altérité. Mais en plus de cela, on est dans une période où il y a moins de travail qu'avant. Donc il y a moins de travail, donc il y a plus de concurrence entre les actifs. Et donc forcément, ça crée plus de peur, ça crée plus de tension, d'autant plus que ces populations qui arrivent en France, qui arrivent dans la métropole ou l'ex-métropole, arrivent et on pose sur elles un regard qui est issu de l'ex-empire colonial français. Donc elles arrivent déjà avec un stigmate, ce qui n'était pas le cas des Italiens ou des Polonais. Donc un stigmate lié à leurs conditions à l'époque d'indigènes, leurs conditions de colonisés, leurs conditions entre guillemets de franco-musulmans, puisque c'est comme ça qu'on les appelait dans les années 50. Ils avaient des cartes d'identité franco-musulmans. Donc il y a tout le regard d'une société qui est elle-même en quête de sens, qu'elle porte sur une population immigrée qui est de plus en plus nombreuse, mais qui est de plus en plus fragilisée. Donc on peut un peu mieux maintenant comprendre comment les relations franco-algériennes, pourquoi sont-elles si complexes.
La France ne peut pas aller jouer à Alger pour des raisons de sécurité, donc bah, abandonnons le projet. Et là, quelques temps plus tard, un autre projet se met en place, et plutôt à l'initiative de l'État, des autorités politiques françaises, c'est de dire non, on maintient le match, mais on le fait au Stade de France, on le fait à Saint-Denis. Et évidemment, ça n'a plus de sens. C'est autre chose. Parce que du coup, là, on introduit l'enjeu de ce match, outre l'aspect sportif, mais qui est relativement secondaire. Quand la France et l'Algérie jouent, c'est pas l'aspect sportif qui domine. Là, on fait venir sur le devant de la scène d'autres questions. Par exemple, faire un match France-Algérie amical en France, du coup, on pense forcément à tous ces jeunes, à ces centaines de milliers de jeunes qui ont la double nationalité, la double identité, qui sont à la fois français et qui ont un passeport algérien pour la quasi-totalité d'entre eux. Et donc, d'une certaine manière, ces jeunes qui ont été les supporters de l'équipe de France, qui étaient parmi les supporters les plus fervents de l'équipe de France pour la Coupe du Monde 2 ans avant, on leur demande là de choisir. On leur dit, mais voilà, faut choisir l'équipe que vous allez soutenir. Et déjà ça, il ne faut pas faire ça. Il ne fallait pas faire ça. Il ne fallait pas rentrer dans cette logique-là. Dans cette logique d'affrontement, d'une certaine manière, entre les deux cultures et les deux identités. Et donc, du coup, ça devient politique. Et je pense que c'est ça l'erreur de départ.
Alors, il y avait des éléments très contradictoires. Moi, je vois dans les villes dont j'étais l'élu à l'époque, il y avait beaucoup de bonheur à l'idée de ce match qui allait en plus se tenir juste à côté, en Seine-Saint-Denis. Moi, j'ai vu, par exemple, partir de cette ville et puis d'autres villes, des quarts entiers de familles, de gamins qui partaient...
Marie-Georges Buffet.
Vers le Stade de France. Et je me rappelle, je m'étais fait la réflexion en regardant partir un quart, en me disant il y avait un nombre de maillots de l'équipe d'Algérie extraordinaire portés par ces gamins. Bon, c'était C'était l'équipe de leurs grands-parents ou de leurs parents, et donc ils affichaient les couleurs, le soutien à l'équipe d'Algérie. Mais c'était dans Bon Enfant à ce moment-là. C'était Bon Enfant. Après, il y avait eu des notes DRG, notamment suite à l'entraînement qui avait été rendu public, etc. Et je me rappelle qu'il y avait eu de nouveau une réunion avec, avec Matignon, hein, où on avait mesuré quand même que, voilà, on avait pris l'enjeu, on avait pris l'ampleur des risques, etc. Mais on ne pouvait plus annuler à ce moment-là le match. Ça aurait été terrible de renoncer à ce moment-là. Il a été décidé par le gouvernement, de maintenir la tenue de ce match. Bon, le président de la République a pris la décision, mais moi je l'ai appris qu'après, de ne pas assister au match. Je me suis fait la réflexion en arrivant dans la tribune présidentielle qu'en effet, le président de la République, mais aussi d'autres élus de sa sensibilité, n'étaient pas présents. Jusqu'aux hymnes, on est inquiet, on est même très inquiet, mais il n'y a pas de signe, il n'y a pas d'incident précurseur. Et j'ai envie de dire que le signe le plus important, c'est les sifflements sur l'hymne national de la République française. C'est là qu'on nous transmet que le public, enfin une partie du public, nous envoie un message politique quand même, de dire qu'il ne se reconnaît pas dans l'hymne du pays dans lequel ils vivent. Pour moi, c'est le moment le plus dur, enfin, parce que c'est quand même assez massif, hein, c'est pas quelques sifflements d'ici ou là, c'est quand même assez massif. Alors il y a un effet d'entraînement certainement qui doit jouer, mais enfin ça exprime quelque chose.
France-Algérie, le match impossible. Fin du premier épisode. Avec Gilles Smadja, ancien chef de cabinet de la ministre de la Jeunesse et des Sports. Lilian Thuram, ancien joueur de l'équipe de France de football. Mouloud Haddad, sociologue. Omar Belbé, ancien joueur de l'équipe nationale algérienne de football. Stanislas Franquiel, historien. Et Marie-Georges Buffet, ancienne ministre de la jeunesse et des sports. Merci à Olivier Margot, Archivina, Stéphanie Place, mixage Guillaume Ledu, attaché de production Sylvia Favre, coordination Christine Bernard. Un documentaire de Stéphane Bonnefoy réalisé par Thomas Duterre.
Sur France Culture, le second épisode d'une histoire particulière.
Le philosophe Claude Lefort aurait eu 100 ans cette année.
Géraldine Mühlmann.
Son itinéraire et son œuvre traversent le XXe siècle, les horreurs politiques qui s'y sont déployées et les espoirs demeurés de faire vivre malgré tout l'exigence démocratique. Et tout cela marque l'écriture de Lefort, la traverse en retour. Nous lui rendons hommage cette semaine.
Avec Philosophie, du lundi au jeudi à 10h sur France Culture, franceculture.fr et l'appli Radio France.
Aujourd'hui, dans votre book club, on prend la direction du Brésil avec un livre iconique, Água Viva.
Marie Richeux.
Disparue en 1977, reconnue comme l'une des autrices phares de la scène littéraire brésilienne, Clarice Lispector faillit pourtant ne jamais envoyer ce roman à son éditeur. Inclassable et fragmentaire, il interroge l'acte d'écrire dans une longue lettre libérée des conventions narratives. On en parle avec la traductrice Isabella Borges et la comédienne Maria Fernanda Candido.
Le book club, du lundi au vendredi à 15h. Sur France Culture, franceculture.fr et l'appli Radio France. Cruel, drôle, ironique, cynique, le fait divers peut être tout à la fois. Jouant sur les principes de l'énigme et de l'astuce, le Macval vous invite à suivre les indices et mener l'enquête lors d'une exposition inédite consacrée à l'analyse artistique de ces tragédies. Fait divers, une hypothèse en 26 lettres, 5 équations et aucune réponse. Jusqu'au 13 avril 2025, au Macval à Vitry-sur-Seine. Une exposition France Culture.
Collection Ils l'ont vécu. Dans cette nouvelle saison, retour en archives et en témoignages sur le 19 avril 1943. Ce jour-là marque le début du soulèvement de la population juive contre les troupes allemandes, dans un quartier de la capitale polonaise, le ghetto de Varsovie.
En 1942, on savait que les gens partaient à Treblinka, qu'ils étaient gazés.
Collection Ils l'ont vécu, saison 6. L'insurrection du ghetto de Varsovie le 19 avril 1943 de Johanna Schebitz, réalisée par Laure-Hélène Planchet sur franceculture.fr et l'appli Radio France.
Une histoire particulière continue sur France Culture avec le second épisode.
Un petit peu déçu par ce qui s'est passé et c'est vrai que bon maintenant c'est à l'opinion publique de pas faire un petit peu l'amalgame avec un groupuscule de fouteurs de merde, n'ayons pas peur de le dire parce que c'est ce qui s'est passé, on nous ont brisé notre rêve parce que ça faisait longtemps qu'on attendait ça, moi je sais que personnellement j'y pensais, ça fait dès l'annonce qu'on allait affronter l'équipe de France, j'y pensais fortement et j'avais espoir en ça et je pense que c'est un petit peu mon rêve gâché quoi, à moi et à toute l'équipe d'Algérie et à tous ceux qui nous soutiennent et à toute l'Algérie.
France-Algérie, le match impossible. Un documentaire de Stéphane Bonnefoy et Thomas Duterre. Deuxième épisode, le malaise.
C'est dur quoi, c'est quand même dur. Alors bon, c'est vrai qu'à ce moment-là, il y a quand même cette tendance-là dans beaucoup de matchs où les hymnes des équipes adverses sont sifflés.
Gilles Smadja, ancien chef de cabinet de Marie-Georges Buffet, ministre de la Jeunesse et des Sports.
Donc on se dit, bon, c'est bon, ça fait partie un peu du folklore autour d'un match, les supporters sifflent les hymnes de l'équipe adverse. Bon. On veut penser que ça ne va pas aller plus loin que ça. Surtout qu'à ce moment-là, moi je suis en tribune officielle, donc je me retourne, je vois qu'il y a des mouvements, je vois que ça bouge, je vois que le Premier ministre n'est pas content du tout. Enfin, bon, on sent déjà qu'il y a quand même beaucoup de crispation et de tension au sein de la tribune.
La Marseillaise couverte par les sifflets, ça m'emmerde. Excusez-moi, je ne vois pas d'autres termes. Ça m'agace, pour des raisons strictement sportives, on ne siffle pas l'adversaire. Et puis pour des raisons plus citoyennes, j'allais dire.
Mouloud Haddad, sociologue.
C'est des choses qui ne se font pas. C'était vraiment, vraiment embêtant.
La quasi-totalité du stade siffle l'hymne français, j'ai eu honte. J'ai eu honte tout simplement pour la simple et bonne raison, c'est que j'aurais pas aimé qu'on siffle l'hymne algérien.
Omar Belbé, ancien joueur de l'équipe nationale algérienne de football.
C'est comme si en fait on jouait à Alger contre l'équipe de France et qu'il y avait 100 000 spectateurs au stade du 5 juillet qui sifflaient l'hymne algérien. Ça, c'est juste pas possible.
La composition de l'équipe de France, l'hymne national, la Marseillaise, l'équipe de France copieusement sifflée tout au long de la rencontre. Le match de la réconciliation, le premier depuis les accords d'Évian en 1962, mais aussi et surtout donc la fête gâchée.
Ça n'arrive jamais. Quasiment jamais qu'un Premier ministre aille à un match amical. Le Premier ministre va voir l'équipe de France, mais elle va voir l'équipe de France quand il y a d'abord, ou alors pour une finale de la Coupe de France.
Gilles Smadja.
Ou pour un enjeu important, mais pas pour un match amical. Et donc si le Premier ministre est là, c'est d'une certaine manière pour affirmer que le gouvernement tout entier assume et revendique l'organisation presque de ce match. Ça montre bien que c'était plus un acte politique qu'un acte sportif. Et encore une fois, je pense que c'est ça qui a un peu faussé les choses, quoi. D'ailleurs, le président de la République à ce moment-là, Jacques Chirac, lui, il ne vient pas au match. Il le sait, et sans doute ses collaborateurs le lui disent, qu'il y a des risques. Et donc, c'est pour ça qu'il ne vient pas.
Moi, vu ce que j'attendais de ce match-là, ça commence mal.
Lilian Thuram, ancien joueur de l'équipe de France de football.
Pour moi, c'est un match qui doit quelque part nous rapprocher, réfléchir ensemble, sortir de ce match tous plus intelligents. Et si ça commence par, effectivement, les sifflets, ben, je comprends. Mais je sais que la grande majorité des gens ne vont pas prendre le temps de comprendre.
La Marseillaise au cœur du débat politique, l'hymne national, vous le savez, a été sifflé samedi soir au Stade de France par quelques centaines de personnes avant le match France-Algérie. Dans le contexte de ces dernières semaines, les réactions sont de plus en plus nombreuses. L'affaire a été évoquée pendant une bonne partie de la séance des questions à l'Assemblée tout à l'heure. Écoutez par exemple Charles Herman, il est député démocratie libérale des Alpes-Maritimes et doyen de l'Assemblée.
Je vois lors du match des milliers de spectateurs siffler la Marseillaise. J'en ai pleuré. Lancé. Oh, et alors ? Ayez mon âge et vous verrez ce que c'est que la France. Lancé des bouteilles en plastique. Ah, si on apprenait davantage la Marseillaise à l'école, peut-être que les applaudissements auraient couvert les sifflets.
Pour avoir été présent au stade, les sifflets ont vraiment été le fait de la frange la plus jeune, et donc la plus nombreuse, hein, des supporters algériens.
Mouloud Haddad.
Cette frange la plus jeune des supporters algériens, elle est née ici, scolarisée ici, socialisée ici, et c'était une façon de montrer son... Oui, c'est une attitude de jeune. Il ne faut pas minimiser, il ne faut pas banaliser ce genre de geste, mais il ne faut pas lui faire dire ce qu'il ne veut pas dire non plus. C'est des jeunes qui n'ont connu que la France, qui ne connaissent que la France. Et oui, c'est une façon de dire leur place, de leur non-place, le fait d'être pas forcément considéré comme il se doit. Peut-être que ces jeunes avaient peut-être de l'avance, en fait, en réalité, et ont senti que 98 était peut-être tout ce qu'on a dit sur 98, la glose produite par la victoire des Bleus à la Coupe du Monde, avec ce slogan terrible, finalement, Black Blanc Beurre. Peut-être qu'ils ont anticipé ça, finalement. Ce sont des enfants de 98, hein. Des enfants de la génération Zidane. Et voilà, il y a une figure de proue qui s'appelle Zidane, mais derrière, il n'y a rien. Peut-être que c'était ça aussi, les sifflets.
Pourquoi des jeunes Français, des jeunes Françaises sifflent la Marseillaise ? C'est ça la vraie question. Et la vraie question, c'est que peut-être que, en fait, c'est une demande d'être aimé. Peut-être que c'est ça, en fait. Peut-être qu'il y a un malaise, il y a un mal-être, et que c'est ce mal-être qui emmène à faire ça. Et encore une fois, je peux le comprendre.
Lilian Thuram.
C'est-à-dire que moi, j'ai vécu dans les banlieues, j'ai vécu aussi ce regard porté sur moi. Et donc, je sais ce que c'est. Et en fait, vous avez besoin d'être reconnu. Vous avez besoin d'être aimé. Mais il faut que les politiques puissent vous le dire. En disant, oh, attention, hein, vous êtes français, française. Et vous avez toute votre légitimité ici. Et si quelqu'un vous dit le contraire, eh bien, cette personne n'est pas dans le vrai. Mais ces enfants n'entendent jamais ça.
On est très inquiets.
Marie-Georges Buffet.
Le Premier ministre aussi. Hein. Les ministres qui étaient présents, il y avait d'autres ministres tout présents. On échange, on est inquiets. Bon, puis après, on se dit le match se démarre. Et puis on a cette réaction... un peu banal, mais bon, maintenant c'est place au sport, vous savez l'expression, place au sport.
plus ça allait, plus en fait c'était extrêmement facile. Et donc c'était l'assurance de la victoire. Quand vous êtes joueur, vous êtes concentré et puis vous essayez vraiment de donner le meilleur de vous-même pour vraiment affirmer votre supériorité. Et dans ce match-là, c'est ce qui a été fait.
Ils n'ont pas marqué 4 buts comme ça pour le plaisir, hein. Ils ont joué vraiment sérieux. Nous, on leur a fait une opposition sérieuse, même si on a connu des petits soucis ce jour-là de gardien de but parce qu'il n'était pas très en forme.
Omar Belbé.
La France, je crois que de mémoire, avait eu un ou deux matchs un petit peu compliqués juste avant. Voilà, donc ils devaient un peu se remettre dans le droit chemin. Et puis ça a été contre nous. On a énormément souffert parce que quand la France a décidé de vous priver de ballon, c'est compliqué.
J'étais au stade avec une de mes filles. Je m'en rappelle très bien. Et bon, la France, évidemment, comme on pouvait le penser, 1-0, 2-0, 3-0, 3-1, 4-1. Et puis, je crois que c'est un quart d'heure avant la fin, on voit tout d'un coup, hop,
Gilles Smadger,
une jeune femme, après, la première à rentrer sur le terrain. Et puis, 2, 3, 4, 5. Et là, c'est, pour moi, c'est un coup au cœur, quoi. C'est de la tristesse. C'est comme un espèce de truc qui s'effondre, quoi.
Elle avait un jean bleu ciel avec le maillot de l'Algérie et je la vois passer devant moi. Et sur le coup, concentré sur le jeu, je me dis mais qu'est-ce qu'elle fout là en fait. Et tout le monde joue, tout le monde court, voilà, tout le monde est intéressé par le jeu, tous les joueurs, que ce soit l'équipe de France, l'équipe d'Algérie. Et puis elle traverse le terrain et en fait c'est les stadiers qui nous font percuter que il y a un truc pas normal qui se passe en fait.
Les stadiers, ils ont dû courir derrière la personne, comme on voit dans les matchs, parce que ça arrive pas souvent quand même. Et puis là, tout d'un coup, on voit un deuxième, un troisième.
4, 5, 6, 10, 20. Et puis alors, après, c'était terminé, quoi. Puis de là, c'est parti en vrille, quoi.
J'étais vraiment un peu dégoûté, moi, de cet envahissement de terrain. Mais j'ai jamais ressenti de violence dans le stade, ni de danger, ni de... J'étais avec un copain, sa compagne qui était enceinte de, je sais pas, 6 ou 7 mois. On n'a pas du tout été bousculé, on n'a pas du tout ressenti de tension, j'allais dire, violente.
Mouloud Haddad.
Bon, ça a commencé par une personne, deux personnes, 10 personnes, 100 personnes. Mais voilà, on arrête... c'était un peu pour préserver, un peu comme si c'était pour préserver l'équipe d'Algérie d'une défaite encore plus cuisante, pour dire faisons la fête au-delà du football et on arrête là.
À 1-1, il n'y a pas d'envahissement de terrain. Mais à 4-1, là, il y a un problème. C'est le fait que les Algériens ne veulent pas être humiliés. Voilà, tout simplement. Ils se disent voilà, on a l'air de quoi à 4-1, et puis bientôt ça va être 5, 6. Et donc, ils veulent arrêter ça.
Ils nous demandent tous de quitter le terrain. Et je dois avouer que j'ai pas envie de quitter le terrain, en fait. J'ai envie juste de leur dire, mais attendez, vous faites n'importe quoi, vous rendez pas compte de ce qui se passe, là. Et d'ailleurs, c'est ce que je dis à un jeune homme que j'attrape, parce que lui, il croyait que je voulais le taper ou je sais pas quoi, mais je voulais juste être un adulte.
Lilian Thuram.
Qui est en train de parler à des enfants en disant, mais oh, vous pouvez pas faire ça. C'est-à-dire que vous êtes en train de vous tirer une balle dans le pied, en fait. C'est-à-dire que la lecture politique, mais c'est une lecture mais désastreuse en fait. Parce que quand vous êtes au contact des jeunes, vous voyez bien qu'il y a des sourires, qu'il n'y a aucun moment de danger. D'accord ? Vous ne vous sentez pas en danger. Vous voyez des jeunes qui courent, qui rigolent. En fait, ils sont contents d'être sur le stade. Mais à la télévision, je sais très bien que ce n'est pas cette lecture-là en fait. Et je sais très bien que ça va réveiller des relents racistes en fait. Et je sais très bien que si c'était, je sais pas moi, un match aller contre l'Espagne, s'il y a les mêmes événements, la lecture est différente. Là, l'Algérie, ah ben alors là, ça je savais que ça allait partir en vrille en fait.
J'avais invité un ami algérien qui est originaire de la même ville que moi, de Annaba, qui habite à Saint-Denis. Je l'avais invité avec un copain à lui. Et donc, quand on a vu ça, mais c'est vrai, au départ, on était heureux, on était contents, on se congratulait, on disait c'est génial, la France et l'Algérie, bon, voilà, peu importe le résultat, c'est pas ça qui compte, mais en tout cas, c'est vrai qu'on était contents. Et là, tout d'un coup, de voir ça, de voir la tournure que ça prend.
Gilles Smadja.
Et là, bah, on était consternés, donc mon ami algérien était aussi consterné que moi, évidemment. Quel gâchis. Tout ça pour ça, quoi. Tout ça pour en arriver là. Et tout d'un coup, le sentiment que finalement, on recule. D'une certaine manière. On voulait avancer pour donner un coup de pouce au renouveau de l'Algérie, après tous les drames que ce pays a connus. Et là, on régresse parce que tout d'un coup, on fait émerger d'autres enjeux, d'autres questions sur la scène politique française, des enjeux intérieurs. Et donc, évidemment, on savait très bien que ce match allait servir, allait être le point d'appui pour parler d'autres choses, pour parler d'autres questions, et qui en plus, dans un contexte où on est à quelques mois de l'élection présidentielle, on essaye d'utiliser ce qui s'est passé à la fin du match pour porter un discours d'exclusion, un discours qui vise à cliver et qui vise à opposer une partie de la population à une autre partie de la population. Mais je pense que ces événements-là ne disent pas ça.
Je voulais savoir quoi exactement, qu'on a la haine, que je suis algérien, que j'ai un peu la honte de voir ce qui se passe parce qu'on est venu voir un match, on connaissait un peu le résultat, on sait que l'équipe algérienne n'est pas assez bonne, on est venu pour la supporter, pour supporter aussi l'équipe de France, on remercie beaucoup la France de nous avoir accueillis et on est vraiment désolé de ce qui s'est passé ce soir. Ce qu'il faudrait retenir, c'est de ne pas mettre tous les Algériens dans le même sac, il y a du bon, du mauvais partout, on n'oublie pas qu'en France il y a l'extrême droite qui fait pas du bien aussi. Donc voilà, encore une fois, désolé, et on s'excuse de ce qui s'est passé.
Il y a certains sondages qui sont faits, notamment un sondage Ipsos, après ce match, qui révèle qu'une semaine après les faits, 56% des Français jugent ces incidents graves car ils témoignent des difficultés d'intégration d'une partie de la population d'origine musulmane.
Stanislas Frankiel, historien.
Donc on voit que le débat peut-être passe un peu plus sous l'angle religieux, plus que sur le côté social. Il semble quand même que la xénophobie se reconfigure et devienne désormais de l'islamophobie, une suspicion permanente sur le fait d'être musulman qu'on va retrouver dans la société française à certains niveaux, mais qu'on va retrouver aussi dans le monde du football professionnel et le monde de l'équipe de France.
Décidément, le final raté du match France-Algérie tourne à l'affaire d'État. Après l'envahissement de la pelouse par les supporters algériens samedi soir, les réactions ont été nombreuses, non seulement dans le milieu du football, mais aussi dans le monde politique. Lionel Jospin, lui-même, a tenu à s'exprimer sur ce match controversé, mission apaisement. Écoutez.
Un certain nombre des événements qui se sont produits étaient regrettables et contrariants. Tout cela doit nous rendre attentifs. Je pense en même temps que dans l'esprit de ce que nous avons dit, le refus de l'amalgame entre le terrorisme et l'islam, le refus du choc des civilisations, le refus d'un conflit qui serait le nôtre avec le monde arabo-musulman, il faut se garder d'accentuer ces choses. Il faut les laisser à leur proportion. Proportion d'événements auxquels, malheureusement, un certain nombre de spectacles sportifs de masse nous ont déjà habitués.
Jusque-là, on était encore peut-être bercé dans l'illusion que le sport pouvait intégrer toutes les populations, quelles qu'elles soient, mais on voit que le problème est sans doute plus complexe que cela et qu'on ne peut pas intégrer une jeunesse immigrée uniquement en utilisant le football, en utilisant le talisman quelque part du football, en utilisant ses effets magiques, notamment depuis le début des années 80, on lui avait attribué des qualités hein, au sport, des sociabilités nouvelles, baisse de comportement violent, estime de soi, le lien social, mais on voit que ça n'est plus possible d'utiliser que le sport pour tenter d'intégrer la jeunesse. Le sport étant l'arbre qui cache la forêt, et la forêt c'était ce sentiment de ne pas être connu, ce sentiment d'être un Français de seconde zone en France, Donc cette intégration était vraiment une intégration de surface, et là je crois que ça a été vu dans le monde entier à l'occasion de ce match.
Je crois que c'est un point de rupture. Le match
Mouloud Haddad
va être ensuite décortiqué, analysé, disséqué par les médias et par les politiques, décifler la Marseillaise jusqu'à l'envahissement du terrain. Et on va se servir de ce match pour montrer qu'il y a toute une frange de la population qui est en défaut d'intégration, qui est en défaut d'amour de la France, qui est en défaut de tout, pour démontrer tout le contraire de ce qu'on a essayé de montrer en 98. Et si on veut essayer d'établir des continuums dans les mêmes zones, dans les mêmes territoires qu'on a eu de ce match, 4 ans après, on a des émeutes, les émeutes de 2005, qui ont touché quand même nombre de quartiers, la Seine-Saint-Denis en particulier, mais pas que, beaucoup de quartiers en France, qui là aussi ont alimenté encore cette idée que, de fracture de la France et de quelque chose qui n'a pas marché. Donc d'une rupture entre certains territoires, que d'aucuns diront perdus, de la République, avec finalement le pays tel qu'il a rêvé de se construire après-guerre. Et la présence de Jean-Marie Le Pen au deuxième tour de l'élection présidentielle de 2002 n'est évidemment pas due aux incidents du match France-Algérie, mais le match France-Algérie est sûrement un des ingrédients qui ont permis aux candidats du Front National d'être historiquement présents au deuxième tour de cette élection présidentielle. Évidemment avec les thèmes immigration, islam, insécurité, qui ne font qu'un en réalité depuis maintenant plus de 20 ans sur la scène politique française. I learned how to get along. Now you're back from outer space, and I find you here with that sad look upon your face. I should have changed that stupid lock, or made you leave your key. If I'd known for a second you'd be back to bother me. Go and go, walk out the door, turn around now, you're not welcome anymore. You're the one who tried to hurt me with goodbye. I think I'd crumble. You think I'd lay down and die? No, not at all.
La France de juillet 98, c'est l'inverse. C'est tout l'inverse. Peut-être d'ailleurs qu'on lui a fait dire des choses de manière exagérée. Vous vous rappelez les discours, l'ambiance, la France black blanc beurre, la France multiculturelle.
Gilles Smadja.
Mais d'une certaine manière quand même, moi j'étais sur les Champs-Élysées le soir de la finale, le 12 juillet 98. Et c'est vrai, on voyait la population française dans ses diversités. Elle, c'était extraordinaire. Toutes les populations, des quartiers, toutes les couleurs de peau. Voilà, ça c'est la France. C'est toujours la France d'aujourd'hui. Et je crois que ce discours-là, qui était de dire que l'équipe de France de foot, peut-être, avait d'une certaine manière révélé ça. Elle avait contribué à ce que ça s'exprime dans l'espace public, et pas n'importe où, sur les Champs-Élysées. Et donc, je pense que ceux qui contestent cette idée-là, je pense que ceux-là, à l'occasion de ce match, ils ont voulu prendre leur revanche. Et ils ont voulu effacer totalement le discours, tout ce qui se disait après la victoire de l'équipe de France en Coupe du Monde. Dans un cas, peut-être qu'on est allé trop loin dans les théories sur « ça y est, la France a réglé grâce au foot des tas de problèmes ». Non, c'est pas vrai. Le foot ne règle pas les problèmes sociaux, économiques, tout ça. Non. Mais en tout cas, à ce moment-là, on a eu une photographie de la société française qui était une belle photographie. Et 2 ans après, 3 ans après, il y a un autre discours qui se met en place qui est tout aussi exagéré et qui est tout aussi très contestable, mais qui vise en quelque sorte, d'une certaine manière, à effacer complètement l'idée que d'une intégration possible, d'une société multiculturelle possible. Je crois que c'est ce qui explique la virulence des réactions après France-Algérie.
Je pense que la victoire et ce slogan a été quelque chose d'important
pour légitimer des discours qu'on n'entendait pas, c'est-à-dire est-ce qu'on peut penser l'égalité, est-ce qu'on peut parler de l'histoire de la colonisation, est-ce que on peut se dire voilà, l'équipe de France a gagné, il y a des personnes de couleurs différentes, de religions différentes, d'origines différentes. S'il y a ces types de personnes en équipe de France, pourquoi on ne les retrouve pas ailleurs? Je pense que ça a légitimé certains discours. Mais de là à croire que les choses allaient changer radicalement, il faut être d'une grande naïveté.
Lilian Thuram.
Ou il faut ne pas subir le racisme ou la discrimination dans la société pour vraiment croire que, en fait, que du jour au lendemain, les choses vont changer. Lorsqu'il y a ce match-là, ben, évidemment, vous oubliez France 98. Parce que ça réveille ben, la peur. Parce que d'ailleurs, le discours des partis d'extrême droite, c'est quoi? C'est réveiller la peur. Et donc, lorsque vous regardez un match à la télévision et que vous voyez des jeunes qui envahissent le terrain, la première des choses, ben, vous avez peur. Parce que vous dites, mais qu'est-ce qui va se passer? Moi, je vous dis personnellement, moi, j'ai pas eu peur. Mais c'est lié à une histoire extrêmement personnelle. Et surtout, je vois bien les sourires. Parce que si j'avais eu vraiment peur, ben, je serais rentré. Je serais pas resté discuter avec le jeune. Si je prends le temps de rester discuter avec lui, c'est à aucun moment je me sens en danger. Et je pense que le discours politique, le discours médiatique a tourné autour de la peur, en fait. Ils font peur. Et puis, dans l'inconscient collectif, oui, les Algériens font peur. Mais on sait pourquoi ils font peur. On sait pourquoi ils font peur. C'est-à-dire qu'il y a une histoire, effectivement, où en fait, ben, la France a colonisé l'Algérie et l'Algérie a résisté. Et l'Algérie a gagné la guerre. Donc, dans l'inconscient collectif, ben, ça reste. Vous prenez toutes les ex-colonies françaises. En fait, les populations qui viennent des ex-colonies françaises ne sont pas vues comme les Algériens. Je pense qu'en France, la peur de l'Algérien est beaucoup plus aiguë que la peur de n'importe qui d'autre.
Parce qu'il y avait à l'origine un enjeu sportif. Non, c'était un match amical. C'était d'abord un enjeu...
Marie-Georges Buffet.
...politique, de marquer que la France et l'Algérie, à travers un match de foot, le sport le plus populaire, allaient vers une réconciliation. Voilà, c'était ça. On lui a fait porter... beaucoup trop de poids, c'est-à-dire c'est une erreur qu'il ne faut plus refaire et qu'on refait, c'est de demander au sport d'être un instrument politique. Le sport ne peut pas et ne doit pas être un instrument politique. Le sport, c'est un très beau spectacle, c'est très bien pour le bien-être des individus, c'est très bien pour le vivre en société, tout ça c'est très bien, point. Le sport ne peut pas régler les maux de la société.
France-Algérie, le match impossible. Avec Gilles Smadja, ancien chef de cabinet de la ministre de la Jeunesse et des Sports. Lilian Thuram, ancien joueur de l'équipe de France de football. Mouloud Haddad, sociologue. Omar Belbé, ancien joueur de l'équipe nationale algérienne de football. Stanislas Frankiel, historien. Et Marie-Georges Buffet, ancienne ministre de la Jeunesse et des Sports. Merci à Olivier Margot. Archivina, Stéphanie Place. Mixage, Guillaume Ledu. Attaché de production, Sylvia Favre. Coordination, Christine Bernard. Un documentaire de Stéphane Bonnefoy, réalisé par Thomas Duterre. I want you to get together. Put your
hands together one time. I want you to get together. Vous pouvez retrouver cette émission sur franceculture.fr et l'application Radio France.
Vous êtes bien sur France Culture.
À quelle heure les matins débuteront-ils ce lundi à 6h30 comme tous les jours de la semaine?
Guillaume Erner.
Les juges interviennent-ils de plus en plus dans la vie politique française? On en parle ce lundi dans les matins.
Les matins de France Culture, aujourd'hui à 6h30 sur France Culture, franceculture.fr et l'appli Radio France.
Dans les midis, on commence la semaine avec deux spectacles au menu des critiques. La comédie musicale El Lodoli dans le mythique cabaret du Lido et Memory of Man King, un voyage dans la mémoire de l'humanité. C'est au théâtre de Gennevilliers.
Marie Laborie.
Et puis je reçois la comédienne, humoriste et chroniqueuse Tani, actuellement en tournée avec L'Autre, un spectacle dans lequel elle se livre avec beaucoup d'autodérision sur son parcours de femme, lesbienne, métisse et normande.
Les midis de culture. Aujourd'hui, à midi sur France Culture, franceculture.fr et l'appli Radio France. Célébrer la richesse culturelle de l'Arménie avec le festival Un Week-end à l'Est. Musique, littérature et art visuel, rencontrez une centaine d'artistes et rendez hommage aux grandes figures arméniennes comme Tigran Amassian ou Aznavour. Ne manquez pas ce rendez-vous incontournable avec André Manoukian comme parrain et Rima Pipoyan comme marraine de cette 8e édition.